Audiolib présente
L'homme qui ment, ou le roman d'un enjoliveur. Récit basé sur une histoire fausse.
De Marc Lavoine. Lu par l'auteur.
Dans le cimetière de Vissous, près des pistes d'Orly, sous la pluie, comme il se doit, le cercueil de mon père est jonché de fleurs blanches. Je suis au bras de ma mère qui se tient dignement entre mon frère et moi. Ma famille, des proches, quelques couronnes, dont une sur laquelle on peut lire « À notre camarade Lucien Lavoine, parti communiste français ». La messe était dite, Lulu n'était plus. Alors que la pluie redouble et se mêle à nos larmes, une jeune femme tente de lire un texte de Charles Péguy, interrompu sans cesse par les avions qui décollent et atterrissent. Nos regards comme nos lèvres sont pris en otage entre le fou rire et la gêne. « Lulu, je t'imagine à l'intérieur de ta boîte. » Vois-tu cela? Tu dois rire comme quand tu regardais ces films italiens que tu aimais tant et dont tu m'as laissé le goût. Ma mère avait les dents fragiles. Mauvaise alimentation pendant la guerre. Mais elle était très belle. Et de fait, cette fragilité timide ajoutait une distance, un charme mystérieux qu'elle a toujours gardé. Le 6 août 1962, Micheline allait accoucher d'une fille. Puisqu'elle avait déjà un garçon, Francis, né en 1957, un jour avant le retour de mon père de la guerre d'Algérie, qui avait l'air pressé d'en découdre. Cette fille se prénommerait Brigitte et aurait tout pour que Michou puisse jouer à la poupée et tisser au fil du temps un lien de complicité féminine, celui sans doute qu'elle connaissait avec Mémé Louise, sa mère, une sainte. Dans la chaleur du taxi bleu ciel de banlieue qui nous menait à l'hôpital de Longjumeau, une chanson passait à la radio et ma mère se tenait le ventre pour éviter d'accoucher sur la banquette arrière. Elle priait en silence, car les prières n'étaient pas le genre de toute la maison. Elle tint bon jusqu'aux marches de l'hôpital, on eut à peine le temps de nous emporter, ma mère et moi, dans la salle d'accouchement, et pouf, j'arrivais comme une lettre à la poste. Ce qui tombait bien, car Lulu, son époux, mon père, le communiste, travaillait au PTT. Petit travail tranquille, disait-on. Ou paye ta tournée. Mais là, stupéfaction. La sage-femme annonça, c'est un beau garçon. Folle de rage contre la vie, le ciel et Dieu, ma mère eut du chagrin. Elle ne pourra jamais m'appeler Brigitte. J'avais entre les jambes un petit quelque chose dont maman se serait bien passée et qui faisait de moi l'objet de sa tristesse et de son refus. Elle ne voulut ni me voir, ni me regarder, ni me reconnaître. Elle ne voulut rien savoir, rien entendre, dormir, du silence, qu'on me foute la paix. Je veux mourir. Et ce, durant plusieurs jours. Je n'étais pas une fille, juste un garçon, rien qu'un bébé masculin dont elle ne voulait pas. C'est ainsi que ma vie commença, par quelques jours d'abandon et de solitude. D'autant que pour mettre un peu de piment dans tout ça, j'étais entre la vie et la mort, pas dans une boîte comme la tienne, Lulu, mais dans une couveuse en plastique médicalisée. J'étais atteint, tenez-vous bien, d'une bronchopneumonie double et d'asthme, en veux-tu, en voilà. Il aurait fallu d'un rien pour que ma mère fût débarrassée de moi. Je n'avais toujours pas meilleur prénom que Brigitte, ce qui devenait gênant vis-à-vis des autres membres de la famille, lesquels tentaient tour à tour de convaincre Michou d'accepter de me rencontrer. Sans engagement définitif, juste voir l'enfant dans sa couveuse. Elle pourrait juger sur pièce. Ma mère tenait bon. Elle voulait une fille qui s'appelle Brigitte. C'était prévu comme ça depuis longtemps. J'étais donc en stand-by, en couveuse, avec un panari, en attente d'une famille, d'un toit, d'un lit et d'un prénom. Entre la vie et l'oubli. Tout ça sentait très très bon. À l'extérieur du cimetière, sous la pluie, au bout de la rue qui longe le mur du boulevard des Allongés, une Clio grise de location était garée. Échouée comme une enfant baleine sur une plage désolée du nord de l'Europe, semblable à un chagrin d'amour. À l'intérieur de l'auto, une femme, seule, pleine de souvenirs et les yeux débordants d'eau saline. Catherine, la seconde femme officielle de mon père, était assise comme en pause, alors que nous nous tenions autour du cercueil, y compris Ophélie, sa fille, ma demi-sœur. J'entends encore les murmures surpris de mes amis, se demandant qui est cette jeune fille de 27 ans au bras de mon frère. « C'est la sœur de Marc », chuchotait mon épouse avec gentillesse. Catherine était interdite.